France Culture.
C'est un mytho, un escroc, hein, quand même, c'est un phénomène.
Le Pic-Assiette, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund.
Le loi faisait l'événement, il était devenu le must.
C'est une histoire qui prête à rire, hein. Sauf qu'il peut mettre les gens par terre, quoi.
Épisode 3, l'apprenti escroc.
Devant le juge d'instruction, il n'a pas contesté le fait qu'il soit un imposteur. Il disait simplement, et c'était son explication, qu'il s'amusait beaucoup, que pour l'instant, il passait un bon temps parce que c'était une excellente expérience. Je ne suis pas pressé, je m'amuse.
Il y a toutes sortes de raisons qui nous poussent à mentir, à nous inventer d'autres vies que la nôtre. On ment pour échapper à notre condition, parfois pour survivre, et de préférence pour vivre mieux. Le Pic-Assiette, dont cette série raconte l'histoire, ment d'abord pour cela, et y prend grand plaisir. Il aime manger des bonnes choses, dormir dans des draps fins, et raconter des histoires. Comme il le dit à Philippe Lida, un avocat qui le défend dans plusieurs affaires, il s'amuse. Il s'amuse et divertit aussi ses victimes, au sens quasi pascalien du terme. Il les détourne de leurs soucis, les étourdit sous un flot continu d'informations et de messages de toutes sortes. Des SMS, des mails, des photos, des vidéos, des discussions de groupe. C'est ça qu'il fait avec Alice, qui a vécu avec la version Andrew Fraser of Lovat, espion du MI6. C'est aussi ce qu'on appelle le love bombing.
Tous les jours, il vous raconte plein de trucs différents. Il vous envoie des messages, il vous transfère des liens, tout le temps. Non-stop, que vous soyez avec lui ou pas. Des vingtaines de liens, d'articles de journaux, de tout et de n'importe quoi, que je n'ouvre même pas, ça n'a aucun sens. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez la tête farcie et vous n'arrivez même plus à réfléchir. Et si vous vous dites « mais l'autre jour, il m'a dit ça » et que vous cherchez, ben vous ne trouvez plus parce qu'il y a tellement de messages. On ne peut que se faire avoir. Toute personne à peu près sensée ne peut pas penser que quelqu'un va mobiliser une telle énergie pour inventer des trucs pareils.
Ce divertissement continu a d'autres vertus. En cherchant à étourdir ses proies, en trouvant un scénario qui va les amuser autant que lui, ils mettent au jour leurs faiblesses, leurs désirs enfouis et leurs passions secrètes. Il agit comme un révélateur. Autour de 20 ans, Jolois semble se fixer un objectif, les moyennes villes de province et leurs fameux notables. Il y compose plusieurs scènes de la vie de province du XXe siècle que n'aurait pas renié Balzac, et tend aux personnages qui les peuplent un miroir impitoyable, reflet de leur avidité au gain, de leur soif de pouvoir, de leur vanité. Comme ici, à Perpignan, en 1986. C'est le propriétaire d'un hôtel qui raconte le début de l'histoire dans une archive télé de l'époque.
Un après-midi, une superbe limousine s'est garée devant l'hôtel avec trois personnes. Un jeune homme est descendu et venu à la réception demander trois chambres. Apparemment, c'était le dirigeant. Il nous a demandé trois chambres, une pour lui, une pour son chauffeur et une pour son secrétaire.
L'émission dont vient cette archive s'appelle « Le glaive et la balance ». Elle est animée par Charles Villeneuve. Cette fois, l'imposteur a choisi de s'appeler Daniel.
En quelques heures, Daniel séduit M. Marguerite et l'ensemble du personnel de l'hôtel. Après avoir commandé une bouteille du meilleur champagne, il leur raconte sa vie. Il est né, d'après lui, il y a 26 ans à Zurich. Son père, patron d'une importante multinationale, serait décédé. Et il vient d'hériter ses fonctions et déclare qu'il va investir dans toute la région. Les projets de Daniel sont pour le moins ambitieux. Il veut non seulement implanter plusieurs usines de jus de fruits dans la région de Prat, mais également racheter une partie de la vallée de la Castellane pour en faire un immense domaine skiable. Les notables du département, inquiets de la situation économique de la région, ne demandent qu'à le croire.
À Perpignan, Jolois est arrivé avec une biographie et un projet industriel pharaonique qui suscite tout de suite l'adhésion. Il va y développer l'industrie de la pomme, des jus, des compotes et des produits dérivés. Il a aussi apporté une nouvelle identité, Daniel Goldenberg. Mais pourquoi a-t-il choisi ce nom-là, qu'il va d'ailleurs utiliser pendant plusieurs années ? Difficile de ne pas s'interroger. Et difficile de ne pas penser qu'en choisissant de s'appeler Goldenberg, Jolois mobilise les clichés antisémites qui associent la judaïté avec la richesse, le pouvoir et l'argent. Et qu'il révèle du même coup les préjugés de ses interlocuteurs qui ne doutent pas un instant de son histoire, ouvrent leur large bec et laissent tomber leur fromage. Tout ce que la région compte d'industriels, de journalistes, de responsables politiques se presse en effet pour connaître ce jeune homme de 22 ans. Comme en témoigne un restaurateur qui s'appelle Didier Bagnols, chez qui tout ce petit monde déjeune, dîne et réunionne entre deux visites de terrain.
Il m'a été amené un jour par le rédacteur en chef du journal local qui m'a dit « Je vais t'amener une personnalité extraordinaire qui va changer la physionomie du département. » En l'occurrence, le fils du PDG de la société Nestlé.
Par l'étendue de ses relations supposées, en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui du « name dropping », Daniel Goldenberg impressionne des personnes qui croient eux-mêmes au privilège, à l'entre-gens, que tout se résout par un coup de fil au puissant. Comme le maire de Moissette, la commune où il veut planter ses pommiers.
Il connaissait les personnalités politiques, qu'ils soient dans l'opposition ou au gouvernement, et il parlait alors souvent de François Mitterrand, souvent, et de Jacques Attali. Alors ça, il en parlait très souvent. Il avait un certain charisme quand même. Il faisait des citations littéraires, par exemple.
Mais l'imposture se heurte vite au réel quand il s'agit de payer les repas.
Alors là, il se lève, apparemment ennuyé, fouille dans ses poches. Ah non, c'est vrai, je n'ai rien sur moi. Et là, le rédacteur en chef me dit, bon, pas de problème, l'addition sera pour moi. Bon, et puis ils discutent à nouveau entre eux. La chose en est restée là pour ce jour-là. Et il me réserve donc la même table pour le lendemain soir.
Après plusieurs factures non réglées et supercheries toujours plus risquées, l'aventure de Jolois à Perpignan tourne court au bout d'une quinzaine de jours. Il est arrêté à la suite d'un banal contrôle d'identité. On découvre alors que la limousine est en réalité un taxi loué en Suisse qui ne sera jamais payé. Le secrétaire est un expert comptable recruté pour l'occasion qui le croit aussi héritier de Nestlé. On est passé de l'affabulation à l'escroquerie organisée. Son avocat commis d'office, Philippe Lida, raconte la suite.
Ce qui est intéressant, c'est que le président a bien sûr demandé à cet expert comptable s'il entendait demander des dommages-intérêts, parce que bien entendu, il n'avait jamais été payé. Et sa réponse a été assez simple, il a dit « Écoutez, non, pas du tout. Après tout, je n'ai pas passé de mauvais moments avec lui, et je suis victime juridiquement, mais je n'y ai rien perdu. » Il avait même profité, si j'ose dire.
Les seules vraies victimes, d'après l'avocat, sont celles qui ont péché par vanité ou par ambition. Elles n'y ont perdu que leurs illusions.
C'est-à-dire le commerçant qui en attendait de l'argent, l'élu qui en attendait des voix ou des projets. Il n'y a pas eu de victime, si j'ose dire, malheureuse.
Après quelques mois de détention qu'il dit fort sympathique, où il se lie avec tous les détenus, Jolois est relâché. Il part à 1000 km de là, en pleine Picardie, à Amiens, et recommence tout de suite. Mais cette fois, il monte d'un cran, une ascension balsacienne. Nous sommes en 1987. Ici, Patrick Bonneau est un jeune restaurateur qui vient de reprendre une bonne table avec son camarade Frédéric, au centre d'Amiens, à deux pas de la cathédrale. Le restaurant s'appelle Aux As du Don. Le Don, c'est le nom de la rivière qui passe en plein centre-ville, à côté du port.
Notre spécialité, c'était ravioli de foie gras au jus de truffe, par exemple. On faisait du turbo, on faisait le magret de canard aux érelles. Des flamiches, un amuse-bouche. On jouait beaucoup sur la carte des desserts, des truffés au chocolat, des tartes fines aux pommes, un soufflé glacé au whisky avec des marrons.
Daniel Goldenberg se présente un matin vers 10h. Patrick, le restaurateur, le décrit comme petit, trapu, avec de la barbe, des cheveux bruns ondulés et une mise assez soignée.
Quand il est rentré, j'ai senti une certaine assurance de sa part. Il demandait à savoir qui était le patron. Et bah, je lui ai dit, c'est moi, je suis associé aussi avec mon collègue en cuisine. Et là, il a été surpris parce que c'est vrai que moi, à l'époque, je faisais vraiment très, 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 très jeune. Et il a un peu tiqué. Et puis, ce jour-là, il m'a demandé de réserver une table pour le midi. Le midi, il est arrivé à l'heure pile. Il s'est installé à table. Il s'est mis à lire quelques magazines locaux tout en prenant des notes sur le coin de la table, etc., sur un journal. Et puis, finalement, il a déjeuné, mais alors tranquillement, comme si... il attendait que tout le monde parte. Donc il a savouré ce qu'il a pris, etc. Et à la fin du repas, il est venu vers moi pour payer sa note. Et il m'a fait des compliments pour le service, la présentation des plats, la qualité des produits, etc., etc. Et puis il m'a dit quand même, je voudrais quand même vous faire une petite remarque sur votre carte, surtout sur votre carte des vins, parce que je trouve que votre carte des vins, elle est un peu limitée. Et là, je lui dis, écoutez, nous, on a ouvert depuis 2 ans et demi à peu près. L'investissement sur une cave n'est pas évident. On va le faire petit à petit. Et pour l'instant, on travaille avec des produits de base. Et à ce moment-là, il me fait une révélation. Et il me dit, écoutez, moi, je travaille pour l'Élysée. Et je dis, l'Élysée ? Il me dit, oui. Je suis en mission pour organiser un dîner de chef d'État à Amiens, en l'honneur de manifestations autour de la cathédrale à ce moment-là, etc. C'était pour Mitterrand, qui devait se déplacer avec d'autres chefs d'État, le Premier ministre italien, si je me rappelle bien, grec, et d'autres personnalités. Et là, moi, je me suis rendu compte que là, on parlait plus de gastronomie du tout, on parlait de recevoir une délégation d'un niveau, je dirais, diplomatique, on va dire ça. Et ça commençait... pas à m'angoisser, mais à m'interroger. Moi, j'étais sceptique, parce que je lui dis « Pourquoi nous ?» Et en fait, il me dit « Tout simplement parce que votre restaurant est idéalement situé, en plein centre-ville, sans grand risque pour la sécurité, ça va faciliter la tâche des équipes, il m'explique qu'il y aura des plongeurs dans les canaux, des équipes sur les toits... il y avait des travaux pas très loin, des personnes aussi dans les grues, pour garantir la sécurité. Il était déjà dans le détail. Et puis, il parlait comme si c'était pas exceptionnel. Du coup, moi, j'ai tout de suite été voir mon pote, Frédéric, pour lui expliquer tout ça. Et puis lui, il revient pas. Il commence à réaliser l'ampleur de ce qui pourrait nous arriver. Si tout ça se révélait exact... Ce serait un tournant dans notre restaurant. Hein. Et je sentais déjà une certaine pression. Je me suis dit, se lancer là-dedans, on est jeune, etc. On vient d'ouvrir. Est-ce qu'on sera à la hauteur ?
L'émissaire de l'Élysée quitte alors les lieux après avoir réglé son repas en bonne et due forme. En plus des festivités autour de la cathédrale, la rencontre des chefs d'État a pour but de discuter de l'ouverture d'un centre culturel européen à une 15aine de kilomètres d'Amiens. La délégation se précise également. Feront le déplacement François Mitterrand accompagné de son épouse Danielle, les présidents italiens et grecs ainsi que leurs femmes, mais aussi Bettino Craxi, président du Conseil des ministres en Italie, et Mélina Mercouri, alors ministre grecque de la Culture et des Sciences. L'émissaire de l'Élysée est également chargé de faire agrandir la piste de l'aéroport d'Amiens pour que le mystère vin présidentiel puisse y atterrir. L'agrandissement permettra aussi de réguler le trafic aérien drainé par les visites au Centre culturel européen de Bertangle. La même effervescence qu'à Perpignan s'empare alors d'Amiens, mais un peu plus. Les deux compères du restaurant L'As du Don, à côté de la cathédrale, sont favoris dans la course au dîner présidentiel. Ils doivent cependant faire quelques ajustements.
Il nous explique que le président François Mitterrand est amateur de vin et il a un faible pour les blancs, les vins blancs de la région Bourgogne et principalement Chablisienne. Et il aime bien les vins structurés avec une acidité, tester des notes minérales. Enfin, bon, il nous explique tout ça. Et nous, sur la carte, les Bourgognes blancs, on en avait un, c'était le Bourgogne aligoté pour faire les kirs, quoi. Et à un moment donné, il nous dit, bon, écoutez, moi, je vous propose de vous mettre en contact avec quelques fournisseurs de Chablis. Et il nous laisse entendre que ces fournisseurs vont nous envoyer des échantillons pour enrichir notre cave. Bon, moi, je trouve que l'idée était intéressante. Hein. Nous, il n'y avait aucun risque, hein. C'était des échantillons. On a reçu des colis tous les jours, avec non pas un flacon, mais des cartons hein, de 6 bouteilles. On n'a jamais reçu de facture, hein. On n'a jamais payé, on ne nous a jamais rien demandé. On a eu même des fournisseurs en vin de la région qui se sont déplacés chez nous pour nous faire des dégustations, en nous laissant encore des échantillons. Notre restaurant, on avait l'impression que c'était devenu la vitrine sous ces vins de Bourgogne.
Et puis, un jour, l'affaire prend un autre tour lors d'un déjeuner où Goldenberg a réuni 8 ou 9 personnes.
Ils ont beaucoup consommé. Et puis, à la fin du repas, Goldenberg me dit, bon, écoutez, comme je reviens ce soir, puisqu'il avait réservé aussi pour le soir une grande table, je paierai l'ensemble le soir. Hein, les deux additions, on va les cumuler, comme ça, je paierai la totalité. Ben, j'ai OK, pas de problème. Et là, on a commencé à s'inquiéter. On s'est dit, mais... Et si c'est ce personnage, finalement, c'était pas celui qu'on croit, si c'était un escroc, et s'il nous payait pas les prestations, etc., etc. Et finalement, on s'est dit, mais bon, comment on peut faire pour trouver une solution? À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc, moi, je dis à mon collègue, je lui dis, ben, écoute, et si on faisait le 12, les renseignements? Et là, je téléphone et je dis, bon, allô, oui, est-ce que vous pouvez me donner le service du protocole de l'Élysée? Mon collègue, il se marre parce qu'il me dit, non, mais attends, mais comme si on va te donner le téléphone de l'Élysée. Et ben finalement, on m'a passé l'Élysée, service du protocole. Même moi, j'étais surpris. Et du coup, une petite conversation, c'était, on a échangé, hein, ils nous ont demandé qu'est-ce qui vous arrive. Et moi, j'ai tout simplement dit, oui, on a peut-être l'impression qu'une personne se faisant passer de vos services, là, et on voudrait savoir si vraiment il fait partie du service du protocole de l'Élysée. Il me dit, bah, écoutez, c'est très simple, je vais faire une petite enquête rapide, et je vous rappelle. On raccroche. Bon, on s'est dit, ils nous rappelleront jamais. Trois quarts d'heure après, on nous rappelle en disant, bah, écoutez, on a fait une recherche, cette personne n'est absolument pas dans nos services, ce qui fait que vous avez affaire à un escroc, donc soyez vigilants. Alors, à partir de maintenant, on va tout faire pour que vous puissiez... ne pas être embêté par ce personnage. On va contacter la gendarmerie et eux-mêmes vont vous contacter de façon à savoir comment ils vont opérer. OK. La gendarmerie nous contacte en nous disant, bah, écoutez, on va faire venir 2 personnes chez vous, hein, 2 policiers en civil, et ces 2 policiers vont essayer de repérer l'énergumène. Et donc voilà, vous n'avez rien à faire, continuez, recevez cet homme avec ses invités, et nous, on s'occupe du reste.
Les restaurateurs sont à la fois stupéfaits et moyennement rassurés. Et ils ont raison. Car la visite des 2 policiers ne se passe pas tout à fait comme prévu.
Le soir arrive, tout le monde arrive. Hein, il y avait des avocats, il y avait des personnalités, etc., locales hein, qui étaient là. Goldenberg arrive, tout va bien. Nous, on fait un service, on avait briefé le personnel, etc., etc. Les policiers étaient en place. Et donc, moi, je les avais mis au comptoir. On avait un comptoir qu'on n'utilisait pas. Mais enfin, bon, on s'était organisé pour faire croire qu'on avait une sorte de petit comptoir de bar. Moi, je leur dis, mais pour avoir l'air de client, il faut quand même que vous puissiez consommer quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Non, non, rien. On est en service, etc. Ben, je dis si, parce que sinon, ça fait désordre. Vous êtes au comptoir et vous faites rien. Et du coup, je leur dis, bah, écoutez, moi, je vous offre une petite coupe de champagne. La soirée avance, et bon, les coupes de champagne étaient terminées, qu'est-ce que je fais? Je leur resserre une petite coupe de champagne. Et le problème, c'est que l'un des deux policiers ne buvait jamais d'alcool. Mais ça, on l'a su après. Et donc, il était très mal. Même l'autre, il était un peu chaud, puis ça faisait beaucoup de bruit, etc. Ils n'étaient pas du tout discrets. Et à un moment donné, ils sont partis, hein, parce qu'il était temps qu'ils partent. Et finalement, on s'est retrouvés, nous, avec tous les invités, Goldenberg, etc., à table. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui avait changé, si ce n'est que les policiers avaient repéré qui était Goldenberg. Bon. Donc la soirée se termine, et à un moment donné, Goldenberg se lève de table, laissant ses invités. Il va aux toilettes, et des toilettes, il quitte le restaurant, il traverse la place, et il s'en va. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est mauvais pour nous. À ce moment-là, donc le temps a passé, un avocat qui était là, hein, qu'on connaissait, hein, il était venu 2-3 fois déjà au restaurant, et il arrive et fait, moi je suis un peu embêté là, parce que moi je dois plaider sur Paris demain, et il me faudrait quand même que vous puissiez me dire où se trouve Goldenberg, je voudrais le remercier avant de partir, etc., etc. Ben, moi j'étais embêté, je dis, ben, écoutez, je sais pas où il est, je peux pas vous répondre, et à ce moment-là, le fameux Goldenberg, je le vois dans l'encadreur de la porte. Il était revenu, décontracté, très zen, et puis il prend l'avocat par le bras, il l'entraîne à l'extérieur, il discute un petit peu, ça n'a pas duré longtemps. L'avocat revient à la réception du restaurant, et il me dit, bon écoutez, je vais vous régler les additions. J'ai dit, bon, très bien. Donc je lui donne les deux additions du midi et du soir, puisque lui, il y était même pas le midi, hein. Il règle les additions. Il faisait un peu la tête, hein, faut le reconnaître. Hein. Et moi, c'était un peu vache, parce que nous, on savait pertinemment que c'était soit lui, soit nous, quoi. Bon, on a préféré que ce soit lui. Mais bon, c'est pas très fair play, mais en même temps, voilà. Donc nous, on a été réglés de tout ce qui avait été consommé, etc., etc. Et Goldenberg, on avait terminé sa soirée, il est parti.
Deux autres amiénois revendiquent la découverte de l'imposture. Colette est propriétaire d'un restaurant où devaient soi-disant être placés des snipers. Elle n'y a pas cru très longtemps. Et puis René Anger, adjoint aux affaires économiques à la mairie, a déjà participé à l'organisation de visites présidentielles. Il sait que ce type d'événement implique nécessairement le directeur de cabinet du préfet. Il lui suffit d'un coup de fil, dit-il, pour donner l'alerte. Toutes ces versions convergent sans doute pour que le 10 juillet 1987, au matin, Daniel Goldenberg soit arrêté et incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens. L'affaire est traitée jusque sur nos antennes.
François Mitterrand devait venir à Amiens, c'est ce qu'affirmait un soi-disant émissaire de l'Élysée. Depuis 3 semaines, il confiait ce secret d'État aux restaurateurs et, contre un bon repas, leur faisait croire que le président avait choisi leur établissement. Un bluff auquel ils ont cru. Il faut dire que le faux conseiller ne venait jamais déjeuner seul, mais avec des directeurs de banque, des représentants politiques ou des membres importants du milieu économique picard. Qu'il ait réussi à leur faire payer l'addition à chaque repas passe encore, mais comment a-t-il pu leur faire avaler durant 3 semaines ces soi-disant secrets d'État ? 29 ans, une barbe impeccablement taillée, celui qui se fait ici appeler Daniel Goldenberg est un personnage très cultivé, un atout important dans le jeu qu'il a mené à Amiens. Véritable escroc, il a déjà été condamné à 7 mois de prison pour une affaire similaire à Perpignan, mais personne n'a pu jusqu'alors percer le mystère de sa véritable identité.
Le procès a lieu 8 mois plus tard, le 13 avril 1988, et il fait grand bruit, même si aucun restaurateur ne porte plainte. Le préjudice s'élève à 4000 francs de notes impayées à une fleuriste qui a livré des bouquets à des journalistes. L'audience au tribunal est un des rares moments de toute sa carrière, si on peut dire, où Jolois reconnaît ses mensonges et essaie de décrire son propre fonctionnement. Ici, dans un extrait du journal télé de France 3 en 1988.
Alain Jolois s'est montré très conciliant devant le tribunal. Pour la première fois, il a reconnu sa véritable identité, laissant délibérément tomber le masque et avouant sans réserve les multiples mensonges qui avaient fait de lui la petite vedette sur la scène amiénoise l'été dernier. Lorsqu'on est lancé dans une histoire, a-t-il déclaré, on est obligé de continuer jusqu'au bout, sinon on casse le personnage.
Le courrier Picard, qui suit l'affaire depuis le début, fait un compte-rendu plus détaillé de l'audience. Comment l'idée de vous faire passer pour un envoyé du président de la République vous est-elle venue ? Demande la présidente du tribunal correctionnel. Je n'oserais pas dire par enchantement, madame, répond Jolois. L'escroquerie n'était pas mon but. J'ai plutôt été poussée par des sentiments incontrôlables. Pourquoi avez-vous fait cela ? C'est difficile à dire. Lorsqu'on est conduit à mentir, on continue pour ne pas briser le personnage qu'on vient de créer. Alain Jolois est condamné à 18 mois de prison pour usurpation de fonctions, filouterie et grivellerie alimentaire, dont 6 mois avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve, ainsi qu'une obligation de suivre un traitement psychiatrique. Depuis la prison d'Amiens, il écrit plusieurs lettres à ses amis amiénois. Il ne veut pas briser son personnage et continue à signer Daniel Goldenberg avec une étoile de David à côté de son nom. Il se plaint surtout du régime alimentaire. Il n'y a même pas de thé et aucun mets raffiné. En sortant de prison, Alain tire les leçons de cette désastreuse expérience culinaire et carcérale. Il est bien décidé à ne pas refaire les mêmes erreurs. Il prépare son coup de maître.
Eyes will drift to the sky in time, while arms keep holding tight. There's a party in full force, still the guests can't help but watch the door.
C'était le Picassiette, épisode 3, L'apprenti escroc, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund en partenariat avec Society. Enquête Inès Bouffartig, Sébastien, réalisation Sylvain Richard et Anne-Laure Chanel. Merci à Adila Benedjaizou, qui est notre conseil en narration, à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, à Luce Mourant, notre stagiaire. La musique, c'était... Et c'est toujours de Gilles Lavanant.
Then 5 years down the line, you say she was never my type. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else.
When you look up,
tell me by surprise. Looking into strange eyes, like school kids who are not friends. In the streets they are connected. Huddling in the dark, the only number you call. outlive all your doubts. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else.